Bon, bah. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, c'est la 10e séance du séminaire sur le bonheur. On a vu que ce qu'on traduit par bonheur, c'est le terme de Osher. Et ce terme revient notamment à trois reprises dans le Chumash. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec Moshe, c'est de reprendre ces trois occurrences et de voir ce qui pouvait les unifier, trouver un fil directeur à ces apparitions du terme Osher. Donc, on va tout de suite aller à la première occurrence qui se trouve dans Bereshit, au moment de la constitution de la fratrie qui donnera naissance aux 12 tribus d'Israël. Il s'agit du passouk de la nomination du deuxième fils de Zilpa, qui est la servante de Léa, et qui s'appelle Asher. Alors je vous lis en français, et puis on reviendra ensuite dessus plus en détail avec les termes en hébreu. Alors, ça donne: Léa vit qu'elle cessait d'enfanter. Elle prit Zilpa, sa servante, et elle la donna à Jacob comme femme. Zilpa, la servante de Léa, donna naissance à un fils pour Jacob. Léa dit: un bon signe est venu. Et elle appela son nom Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna naissance à un second fils pour Jacob. Léa dit: dans ma chance, car les filles m'appelleront heureuse. Et elle appela son nom Asher. Alors, en hébreu, ça donne: Be'oshri ki ishroni banot. On a deux apparitions du terme Asher, de la racine Asher, dans un seul passouk. On retrouve ici le terme central du séminaire, le Osher, décliné de deux façons différentes. Dans la première partie du passouk, on dit Be'oshri par mon Osher, et dans la deuxième partie, on dit Ki ishruni banot, car elles m'ont rendu Osher les filles. Alors, on va revenir sur le sens de ce passouk tout au long de cet exposé, et ça va même être le cœur de notre intervention. Alors, on va faire un rappel plus large sur le contexte dans lequel le verset est énoncé. Il s'agit précisément de la naissance du huitième fils de Yaakov, du huitième des Shvatim, de la huitième des tribus, par Zilpa, et cet enfant est nommé par Léa, sa maîtresse. Alors, première surprise, quand Léa s'exprime en disant Be'oshri, par mon Osher, elle s'approprie ce Osher, elle s'approprie ce bonheur, alors que ce n'est pas elle qui a donné naissance à l'enfant. Puis ensuite, elle justifie ce Osher après cette appropriation, en disant Ki ishroni banot, car elles m'ont loué, loué ishroni, les filles banot. Alors, on peut tout de suite s'étonner du rapport à l'autre qui est posé dans ces quelques mots, et de cette étonnante appropriation par Léa, pour ne pas dire plus, du bonheur de cette naissance. Elle dit Be'oshri par mon bonheur, pour ne pas laisser ce Osher sans propriétaire, pour ne pas exprimer la venue de cet enfant comme un bonheur, mais bien comme mon bonheur. Insistons ensuite sur un deuxième point: l'appui sur les autres, le regard des autres, des filles, des autres filles, apparaît nécessaire pour Léa pour accéder au Osher. Elle dit qu'il ishroni banot, car d'autres filles m'ont loué. Voilà sur les remarques littérales que l'on peut faire sur ce passouk. Alors, par ces deux remarques, on a intitulé notre séance Le bonheur des autres et par les autres. L'étonnement, c'est que ce Osher dépend, le bonheur dépend a priori des autres, d'autres filles dont on ne sait même pas qui elles sont. On dit banot dans la Torah. On se serait plutôt attendu à ce que les matriarches soient capables d'un bonheur qui soit vrai, c'est-à-dire d'un bonheur personnelles qui se nourrissent pas de la réaction des autres, d'un bonheur qui ne dépend que de soi. Alors, à ce stade de la question, et pour essayer d'avancer, on est obligé de faire une recherche plus approfondie sur la nature de ce Hocher qui donne lieu au nom de Hacher. Approfondissement que nous allons compléter en procédant à la lecture des deux autres occurrences dans la Torah d'une parole dite sur ce nom de Hacher. La deuxième occurrence est une parole du père d'Hacher, Yaakov, avant sa mort, lorsqu'il réunit tous ses fils, afin de leur dire ce qui allait leur arriver dans la suite des jours. C'est l'expression qui est utilisée dans la Torah. La troisième occurrence, quant à elle, c'est une parole de Moshe Rabbeinu qui s'adresse à chaque tribu et qui est introduite par la phrase « La bracha qu'il fit au Bnei Israël avant sa mort ». Donc notre approfondissement de ces occurrences sera à chaque fois rapproché du verset qui le précède, à savoir ce qui est dit de la tribu qui vient avant Hacher, son frère aîné, Gad. Gad étant un autre terme qui désigne un type de bonheur différent. Donc ce qui est intéressant et ce qu'on va questionner, c'est de voir que les deux notions de bonheur apparaissent quasiment simultanément. Alors, on va revenir après avoir décrit ces trois occurrences de la Torah sur la première, et on va essayer de voir ce que disent les différents commentateurs sur ce Hocher et comment est-ce qu'il a été traduit. Donc pour Onkelos notamment, ça veut dire éloge. Donc c'est ce qu'on avait vu avec Eric Smilevitch lorsqu'il était venu. Hocher dans le sens Hacheré, dans le sens de bravo à, gloire à, félicitations à. Donc ça c'est la traduction d'Onkelos sur place, hein, éloge. La Bible du rabbinat, elle traduit Hacher par ma fortune. Et on trouve par ailleurs d'autres élaborations de cette traduction plus construite à partir du bonheur. Pour Rav Hirsch, ça devient « mon heureuse progression ». Pour la traduction strictement étymologique du bonheur, le terme français, « bonne heure », dans le sens du bon augure, de la bonne fortune, c'est à Gad. C'est dans la traduction qu'on donne au mot de Gad qu'on va la trouver. Rashi dit sur Gad que c'est un mazal tov, c'est un bon mazal, un bon augure. Bon. Donc on va voir ce qu'on peut dire de cette distinction entre le bonheur version Gad et le bonheur version Hacher. Alors, selon Rav Hirsch, qui disait pour Hacher que l'idée de bonheur, c'était l'idée de progression, Hocher, progression. Pour lui, Gad, c'est associé à l'idée d'irruption, comme l'avait fait remarquer Rashi d'ailleurs, à propos de son commentaire dans le Chumash sur le terme de Gad. Il traduit ce terme par le fait que ce soit tranchant. C'est ce qui fait dire à Rav Hirsch que le bonheur associé à Gad est impromptu. Et resitue dans le contexte, on peut dire que comme Léa avait cessé d'avoir des enfants, Bagad veut dire, selon cette lecture, un bonheur inattendu est arrivé. Après avoir cessé d'avoir des enfants, nous dit le texte, elle a un enfant supplémentaire, certes par le même moyen, mais semble-t-il, il y aurait cette idée de surgissement. Alors, cette idée-là se trouve en opposition avec Hacher, qui, toujours selon la traduction de Hirsch, veut dire, pour Béochri, « mon heureuse progression ». Donc on a tranchant d'un côté, progression de l'autre. C'est Léa qui s'exprimerait ainsi en disant « je suis encore dans mon heureuse progression, car des femmes ont loué ma progression ». Et pour asseoir cette traduction, Rav Hirsch fait référence au terme de « Ashur », qui désigne par ailleurs des pas, des degrés, au sens d'une avancée morale. Le Hocher, c'est donc, selon Rav Hirsch, un développement permanent en vue d'une richesse de force et de qualité. On a donc ici pour la première fois une définition du Hasheret différente de l'idée du bonheur, au sens littéral de bon augure, de Mazal Tov, ou encore d'un bonheur lié avec une idée de Avodazara, mais ça, enfin, Rashi nous le dira, enfin, Rashi le cite, mais on verra à la fin de notre exposé en quoi le bonheur version Gad peut être rapproché de l'idolâtrie. Donc le Hosher serait par contraste avec Gad non opiné pour Hacher, attendu et préparé, puisque c'est dans la notion de progression qu'il faut aller le chercher. On aurait un Hosher qui succéderait au Gad, au bonheur, disons hasardeux, non préparé, et qui serait la suite logique. Alors, ce qu'on va faire maintenant pour approfondir cette première occurrence, c'est qu'on va essayer de voir en quoi la démarche de Léa, c'est-à-dire le fait de céder une servante à son mari, est originale par rapport à ce qui avait déjà été fait avant elle, hein, puisque Sarah avait fait la même chose en donnant Agar, et puis Rachel avait fait la même chose en donnant sa servante Bila. Donc on parle de surprise, de survenue inopinée, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce comportement de Léa qui nous fait dire qu'elle ne s'y attendait pas? Alors, c'est Rav Hirsch lui-même qui nous avait fait remarquer dans son commentaire qu'il était difficile de comprendre la surprise de Léa alors qu'elle avait copié a priori sa sœur Rachel. Rachel avait en effet, avant elle, donné sa servante Bila à Jacob et avait eu deux enfants nés de la sorte. Bon. Alors, pour nous aider à définir la nouveauté de la démarche de Léa, le Netziv, qui est un commentateur lituanien qui a traduit l'ensemble du Chumash, propose une autre lecture et dit ce qu'il y a de spécifique à la démarche de Léa. Donc, ce qu'il dit, c'est que Léa avait déjà eu son quota d'enfants, et même davantage, puisqu'elle en avait eu quatre, les quatre premières tribus. Donc elle savait qu'il y aurait 12 tribus, elle savait qu'il y avait plusieurs femmes, hein. Donc elle était au moins assurée d'avoir le quart, c'est-à-dire d'avoir le quart, c'est-à-dire 3/12. Donc c'est pas du tout la même chose que Rachel et que Sarah. Hein. Donc le Netziv va interpréter cette démarche de Léa comme différente de celle de Rachel. Pour mieux comprendre cette distinction, donc on va revenir sur le premier modèle de matriarche ayant usé de cette démarche, c'est Sarah. Sarah, on l'a dit, avait fait entrer Agar sous son toit en disant à Abraham, « Iné na ad sarani Hachem miledet, vois s'il te plaît, Hachem a refusé l'enfantement, bona el shifrati, oula ibane mimena. Viens donc vers ma servante, peut-être serai-je édifié par elle. » Citons tout de suite le commentaire du Netziv quant aux distinctions qu'il fait de ces trois exemples apparemment similaires, mais qui sont trois modèles différents de maternité. Alors, il dit que pour Sarah, cette démarche était motivée par le fait qu'elle désirait un enfant d'Abraham, mais elle savait que le fils issu de cette union entre Abraham et Agar ne serait pas le sien. C'est-à-dire, il n'y aurait pas d'appropriation comme il y a eu pour Léa. C'est par une voie détournée, nous dit le Netziv, que Sarah a dit « Peut-être serais-je édifié par elle, par Agar. » C'est-à-dire, par le mérite d'avoir fait entrer une concubine sous mon toit. Ce que dit Rashi par la même occasion. Donc il s'agirait d'un acte de bravoure accompli par Sarah, qui lui aurait donné un mérite, et elle pensait concrétiser ce mérite dans la naissance ultérieure d'un enfant qui serait à elle. Donc ça, c'est la démarche de Sarah. Ça, c'est pas le cas ni de Rachel ni de Léa. Rachel, elle est comme Sarah devant un décret qui l'empêche d'avoir un enfant. Elle dit à son mari, Iné Amati, Bila, Bo et Léa, voici ma servante Bila, va vers elle, viens vers elle. Vateled albirkai, ve ibane gam anochi mimena. Qu'elle enfante pour mes genoux, hein, traduction volontaire, qu'elle enfante pour mes genoux, et que je sois édifié moi aussi par elle. Cette précision, qu'elle enfante sur ou pour mes genoux, que le Targoum rend par et que je les élève, que je les éduque, fera dire aux Netziv qu'il s'agit d'une adoption des enfants de Bila par Rachel, qui s'engage ainsi à les élever comme elle aurait élevé ses propres enfants. Rachel s'approprie les enfants de cette union et espère de la sorte être construite, édifiée par ses naissances, elle qui n'en avait jusqu'alors aucune. Pour Léa, c'est forcément de toute autre chose dont il s'agit, puisque Léa avait déjà eu 4 fils de Yaakov. Le Netziv nous fait remarquer que lorsque Léa se remet à enfanter par la suite, donc après les 4, après les 2 Gad et Asher qu'elle a eu de sa servante Zilpa, elle nomme à ce moment-là son fils Issachar. Et l'explication qu'elle en donne, c'est la racine de Issachar Srar, car Hachem m'a récompensé d'avoir donné ma servante à mon mari. Donc elle voyait aussi, comme Sarah, elle voyait une récompense à son action. Elle voyait un acte d'abnégation comme du même type de celui que Sarah a fait, mais ça n'avait pas pour but avoué de provoquer chez elle un enfantement. Le Netziv nous dit que c'est une autre raison qui lui a fait dire ça, c'est en réalité par souci du sort de Zilpa que Léa a donné à son mari en tant qu'épouse, car, nous dit le Netziv, elle a compris qu'elle avait fait une erreur au sujet de Zilpa en la laissant jalouser ainsi Bila. Donc c'est pour permettre à Bila de ne plus éprouver de jalousie de Zilpa. C'est ainsi que pour le Netziv, le nom de cet enfant Gad, que Rashi traduit par Mazal Tov, renvoie à la bracha de Mazal Tov, celle qu'on fait au moment du mariage, comme s'il a été resté coincé, étonné dans son émotion qu'avait provoqué ce mariage chez elle. Elle a dû se surpasser pour pouvoir envisager cette chose-là d'une manière désintéressée, puisqu'elle avait déjà eu ses propres enfants. Donc, elle avait dû voir au-delà de son propre intérêt, en se souciant du ressenti de sa servante. C'est pour cela qu'elle nomma le premier enfant né de cette union Gad, au sens de Mazal Tov. Donc ceci nous permet de dire, si l'on veut récupérer l'idée du Rav Hirsch sur l'aspect inattendu du bonheur de Gad, que c'est du mariage entre Yaakov et Bila dont il s'agit ici, et c'est presque de l'auto-étonnement de ce que Léa a réussi à accomplir, toujours par opposition à Asher, qui lui est le véritable fruit, disons le plus accompli, aux yeux de Léa. Gad est l'enfant par lequel Léa se rend compte de ce qu'elle a fait, et Asher serait celui par lequel elle en mesure les conséquences, les retombées, qui sont pour Léa des louanges des filles de sa génération. Donc le bonheur serait, selon cette lecture du Netziv, le fait de réaliser, de se rendre compte, de prendre conscience de la grandeur de son acte. Et le hocher serait par la suite le fait de vivre ses retombées. Ici, les fruits de cette union, c'est Asher et les louanges des filles de la génération. Voilà, on a donc 2 plans de lecture de la notion de bonheur. La première, c'est celle du Rav Hirsch, où le bonheur version Gad serait plus passif. Ce serait ce qui arrive de manière inattendue, inespérée, même si ce qui arrive arrive à d'autres ou par d'autres. Tandis que le Hocher, c'est plus dans la progression, vers une richesse de force et de qualité. La deuxième lecture, ce serait celle du Netziv, où le bonheur, ce serait dans la prise de conscience de ce que j'ai en fait donné du bonheur à l'autre, à l'image de Léa avec sa servante. Puis le Hocher est dans la reconnaissance de cette grandeur par les autres filles. Voilà pour la première occurrence de Hacher, celle de sa naissance et de sa nomination par Léa, et qui pose le problème du rapport à l'autre dans le bonheur, aussi bien sur la source du bonheur, d'où il vient, que sur la reconnaissance nécessaire pour éprouver ce bonheur. Donc, la vision horizontale. On va maintenant voir les deux autres occurrences de la Torah que j'ai mentionnées brièvement tout à l'heure pour voir si elles nous éclairent sur un de ces deux points, voire sur les deux. Alors, la deuxième occurrence où l'on cite Gad et Asher, c'est au moment où Yaakov fait les brachot à ses enfants avant de mourir. Yaakov dit Gad Gedoud Yegoudenou. Qui veut dire Gad sera assailli par des troupes ennemies, mais lui saura les faire fuir. C'est-à-dire que Gad, dans le contexte, à Gad, on lui donnait une partie de territoire qui serait, semble-t-il, plus riche, mais aussi plus en contact avec les frontières extérieures de Eretz Israël. Et cette richesse aurait suscité de la convoitise et de la jalousie de la part de ses voisins. Par contre, de Hacher, Yaakov dit « Me Hacher Shemena Lachmo ». Grâce à Hacher, son pain sera huileux, ce qui veut dire. C'est-à-dire huileux au sens de moelleux et riche. Et que c'est Hacher et sa tribu qui fournira les délices royaux. Délices royaux, donc on a vu notamment une explication qui nous laissait entendre que les filles des tribus de Hacher seraient celles qui épouseraient les Kohanim. Donc ce serait une interprétation de ce verset. Grâce à Hacher, son pain sera huileux. C'était une parenthèse. Donc on a dans le Me Hacher, dans Me Hacher chez Menal Armo, Me Hacher, de Hacher, ou grâce à lui, déjà une externalisation intéressante, comme si cette richesse était destinée à profiter à un autre. Alors que pour Gad, ce qu'on vient de dire, c'est que il est plutôt dans la position de défendre son territoire et ses richesses, plutôt que d'attendre une reconnaissance de ses voisins. Donc on va continuer sur ce parallèle que l'on fait entre Gad et Asher sur la troisième occurrence. La troisième occurrence, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et il dit de Gad, « Barour Mahriv Gad, béni soit celui qui laisse Gad se déployer. Il repose comme une lionne et il déchire le bras avec la tête. » Donc on retrouve cette idée aussi d'une conquête ou d'une assise sur son territoire qui serait par les armes ou du moins par la force. Par contre, de Hacher, on dit « Barour mibani Hacher ». Moshe Rabbeinu dit ça. Ce qui veut dire que Hacher soit béni d'entre les fils. Ça veut dire qu'il trouve grâce aux yeux de ses frères. Et le verset continue en disant qu'il trempe ses pieds dans l'huile. Donc on voit apparaître, pour ce qui est de la part de Hacher, deux notions bien claires. La première, c'est l'idée de richesse, qui est bizarrement ici représentée par l'huile, plutôt que par les attributs habituels de la richesse, qui sont l'or et l'argent. Et la deuxième notion qui apparaît, et qui nous devient familière, c'est cette dépendance de HR à la relation aux autres et à leur reconnaissance. Le pasouk dit en effet qu'il trouve grâce aux yeux de ses frères. Et cette idée, on la retrouve aussi bien dans la première citation que l'on vient de travailler, que dans cette occurrence-là, la troisième, où Moshe Rabbeinu dit d'Asher qu'il trouve grâce aux yeux de ses frères. Si on oppose ça avec les brachot de Gad, on a deux modèles de richesse. Pour Gad, on a dit celui qui laisse Gad se déployer. Ce modèle, celui de Gad, demande une grande capacité à se défendre. Gad serait sans arrêt assailli par des ennemis qu'il saurait chasser. Asher, au contraire, serait selon cette lecture celui qui a une richesse non convoitée, qui ne compromet pas ses rapports avec les autres, tandis que Gad resterait jalousé par des ennemis qu'il attaquerait sans répit. Quand bien même on pourra dire qu'Asher trouve grâce aux yeux de ses frères, tandis que Gad est assailli par des troupes probablement étrangères, ils n'en sont pas moins définis respectivement de la sorte, Asher comme détenteur d'une richesse qui ne compromet pas ses relations avec les autres, tandis que de Gad, il n'en va pas ainsi. Quelle est donc cette richesse pour Asher et quel est ce bonheur qui n'attire pas les convoitises? Alors, pour répondre à cette question, ce bonheur qui n'attire pas les convoitises, on a rapporté une Gemara qui se trouve dans Menachot 85b et qui parle dans ce passage-là des huiles selon leurs origines. Et on va voir qu'on va pouvoir faire le lien entre huile et richesse. Et par conséquent, avec la bracha qui est donnée à Asher. Donc la Gemara commence en citant un verset de Shmuel, dans lequel il est dit sur Yoav, le chef d'armée de David, qu'il a envoyé des émissaires dans la ville de Tekoa pour trouver à David une femme savante. Donc, une femme savante, la Gemara s'interroge pourquoi spécialement à Tekoa? Alors, la Gemara nous dit que la Tekoa est la première ville au classement de la Mishnah sur les huiles. Et la Gemara de répondre, Mitor Sheraglin Bashemen Zeit, du fait qu'ils sont coutumiers de l'huile d'olive, à Tekoa, Chorma Mitsuya Baen, la sagesse se trouve parmi eux. Ça, c'est le cadre qui est dressé par la Gemara sur le lien entre la sagesse et l'huile. Donc, après cette introduction sur le signifiant, l'huile d'olive et le signifié, la chorma, la Gemara nous raconte une histoire. Donc, une histoire très intéressante, vous allez voir. Alors, une fois, des gens de la ville de Laodicée, Loudkia, dans la Gemara, donc c'est une ville qui se situe a priori en dehors des Rêtes Israël et qui serait peuplée de non-juifs, bon, une fois ces gens-là ont eu besoin d'une grande quantité d'huile d'olive, comprendre de chorma pour 1 million de manées, qui était une monnaie de l'époque. Alors pour cela, pour se procurer cette huile ou cette chorma, ils ont nommé un démarcheur pour leur trouver cette denrée. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été son premier réflexe? Ça a été de s'en aller à Yerushalayim. Alors, pourquoi Yerushalayim? Est-ce qu'il s'est dit, bon, c'est là-bas, c'est le lieu des Kohanim, de la prêtrise, il y aura forcément de la Chorma là-bas. Bon, toujours est-il qu'il va là-bas, mais on lui fait comprendre qu'en fait, c'est pas là-bas qu'il trouvera son huile. Et on l'emmène, on le renvoie à Tsour. Tsour, qui a priori Tyr actuel, qui est une ville de marchands, donc qui est supposée pouvoir offrir à toutes les personnes le désirant la quantité d'huile voulue. Mais à Tsour, on lui fait comprendre que l'huile, la chorma, l'huile, ne se trouve pas à cet endroit. Donc on le renvoie à Gush Halav, qui est un lieu dans le territoire de Asher. Et à Gush Halav, on lui indique le nom d'un homme qui saurait lui fournir une telle quantité. Puis on lui indiquait son champ. Il se dirigea vers ce champ, le champ en question, et il trouva l'homme qui était censé pouvoir lui fournir cette quantité d'huile, tel un paysan, un humble paysan, en train de creuser des rigoles laborieusement autour de ses oliviers. Ce qui ne correspond bien évidemment pas à l'image que l'on peut se faire d'un riche marchand qui posséderait de quoi satisfaire sa demande. Bon, il le questionna tout de même, lui dit, aurais-tu de quoi satisfaire une demande de pareille quantité? Aurais-tu de l'huile pour 1 million de manées? Alors l'homme, imperturbable dans son travail, lui dit, attends-moi jusqu'à ce que j'ai fini de travailler et après nous verrons. Alors il attendit, notre démarcheur. Lorsque l'homme, le paysan, eut fini de travailler, il prit son baluchon et ses outils sur son dos et prit le chemin du retour. Sur le chemin, il continua à débroussailler et à ramasser les pierres qui traînaient dans le champ, à l'image d'un paysan travailleur à l'extrême, et a priori dans un extrême besoin, pour travailler autant et ne laisser aucune parcelle de temps non productive. Bon. Alors, des marcheurs, qui étaient inquiets tout de même de réussir sa mission, lui redemanda, « Es-tu sûr de pouvoir satisfaire une pareille demande ?» Alors que, intérieurement, nous dit la Gemara, il se disait, j'ai vraiment l'impression que les juifs qui m'ont indiqué ce paysan se sont moqués de moi, se sont payés ma tête. Alors, il a quand même suivi le paysan. Le paysan est arrivé chez lui, en ville, et sa servante lui fit sortir un réchaud d'eau afin qu'il s'y rince le visage. Donc c'est la servante du paysan, semble-t-il, lui fit sortir un réchaud d'eau afin qu'il s'y rince le visage, les mains et les pieds, et il sortit une bassine en or pleine d'huile pour qu'il s'y trempe les mains et les pieds. Donc il sort le grand jeu, et ce, afin d'accomplir la bracha qui est dit sur Asher, et que l'on a vu, et il trempera ses pieds dans l'huile. Après qu'ils aient mangé et bu, il lui servit la quantité demandée, et lui demanda s'il n'aurait pas besoin de plus que cette quantité. Donc comprendre un besoin qui irait au-delà des 1 million de manées à livrer. Alors le démarcheur lui répondit, oui, j'ai besoin de plus, mais je n'ai pas de quoi payer. Alors le paysan lui répondit, si tu veux prendre plus, prends, et moi je te raccompagnerai jusque chez toi pour que tu puisses régler mon dû. Donc le paysan servit la quantité demandée, les 1 million, plus la quantité supplémentaire, et à ce sujet, il y avait tellement d'huile qui avait été transportée à cette époque qu'on raconte qu'aucun moyen de transport à cette époque en Eretz Israël était resté inutilisé. Tout avait été mobilisé pour l'opération en question. Donc une fois qu'ils sont rentrés dans la ville de départ des marcheurs, les habitants de la ville sont sortis à leur rencontre, ils les ont accueillis et ils ont souhaité féliciter le démarcheur de la réussite de sa mission. Alors le démarcheur leur a dit, mais c'est pas moi qu'il faut féliciter, mais c'est l'homme qui m'accompagne, c'est lui, ce paysan, puisqu'il m'a non seulement fourni toute l'huile que je pouvais lui acheter, mais il m'a même fait une avance sur une quantité importante. Et ceci, nous dit la Gemara, afin d'accomplir ce qui est dit dans un verset de Michelet, je crois même que c'est le démarcheur qui cite le verset de Michelet, oui. Le verset étant, il y a celui qui laisse penser qu'il est très riche et qui en fait n'a rien, et celui qui laisse apparaître une extrême pauvreté mais qui en fait est très riche. Donc la Gemara nous raconte cette histoire intéressante tout en nous indiquant la clé de lecture qui est que l'huile signifie la chorma, et ça devient pour nous un véritable trésor pour l'apprentissage sur la chorma. Même si on ne peut pas en relever toutes les finesses et rentrer aujourd'hui dans tous les détails de cette agada, contentons-nous de comprendre la fin, la citation du verset de Michelet, qui je répète, il y a celui qui laisse penser qu'il est riche et qui en fait n'a rien, et celui qui laisse apparaître une extrême pauvreté et en fait est très riche. Donc, sur ce verset, on a ramené un commentateur qui s'appelle le Ralbag et qui nous explique que ce verset a l'air de faire l'éloge de celui qui se montre pauvre alors qu'il a des richesses, par opposition à celui qui se montre riche alors qu'en réalité il ne possède rien. Et le Ralbag de faire tout de suite le parallèle avec la sagesse. C'est-à-dire, il y a celui qui est chacham sans le montrer, et inversement, celui qui se montre comme un chacham alors qu'il ne sait rien. Et si la Gemara cite ce verset, c'est bien entendu pour justifier l'éloge du paysan, qui en apparence ne possédait pas de chorma, en apparence, mais qui en fait possédait beaucoup de richesses et de sagesse. Alors, si on veut rentrer un cran au-dessus dans le texte, on arrive à une difficulté. Ce qui est étonnant dans l'attitude du paysan, c'est que si l'attitude d'humilité, son attitude d'humilité était ainsi justifiée et était une façon de vivre, alors on peut se demander pourquoi il a complètement changé son comportement au moment de rentrer chez lui, quand il s'est lavé et quand il a sorti une bassine d'or pleine d'huile, pleine de sagesse, pour en mettre plein la vue à son élève. Donc on s'est posé la question, à quoi correspond ce double jeu, en quelque sorte, du paysan, que l'on a assimilé ici comme il est question de sagesse, à un enseignant. Qu'est-ce qui se passe dans la transmission de la chorma alors qu'on voit qu'on joue sur deux plans. Voilà. Alors, on a essayé de répondre en disant que le paysan venait de très bas en quelque sorte, le démarcheur venait de très bas en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il avait une impression extrêmement mauvaise de ce paysan, et que dans une telle configuration, il n'était pas capable, lui, de recevoir une sagesse d'un maître. Donc le maître a été obligé de sortir de sa réserve, de sortir de son humilité pour permettre à l'élève de recevoir l'huile ou d'acheter cette huile en grande quantité. Donc si on revient au pasouk qui nous ramène la Gemara, hein, et il trempe Bachemen dans l'huile raglo son pied, qui est la bracha qu'a dit Moshe Rabbeinu Asher. Donc on voit que le pasouk promet Asher pas seulement de la richesse au sens matériel du terme, mais le osher qui en découle de l'huile ou de la chorma. D'où la contradiction qu'on a soulevée entre un comportement discret qui permet la non-compromission des relations aux autres et la nécessité de la reconnaissance qui ne peut venir que de l'autre. Voilà, donc on retrouve ici cette, cette idée qu'on avait mentionnée pour Léa, c'est-à-dire que Léa ne pouvait exprimer son bonheur qu'à partir du moment où elle était louée par les filles. Donc il y a nécessité de reconnaissance. Alors, Moshé disait que c'est Moshé qui est enseignant, moi élève, que c'était une psychose bien connue des enseignants, et qu'un enseignant peut se dire posséder la chorma que lorsqu'elle est mise en mouvement par la demande de l'élève. C'est-à-dire qu'il faut au préalable la reconnaissance par l'élève d'une certaine supériorité. Bon. Alors, ce qui complique la chose dans le machal de la richesse, parce que là, dans notre lecture de la Gemara, on a joué sur deux plans. On a joué sur richesse matérielle, qui est l'huile, et puis la richesse que représente la chorma. Bon. Donc là, ce qui complique la chose dans le machal de la richesse, c'est qu'habituellement, la richesse est distincte, au moins apparemment, du hocher qui en découle. La richesse peut se voir comme indépendante d'une reconnaissance, la richesse matérielle toujours, hein, indépendante d'une reconnaissance et d'une demande, mais pas le hocher qui en découle. Alors, ce qui est intéressant dans le Nimshal sur la Chorma, c'est qu'on a l'impression que le hocher et la Chorma ne font qu'un. C'est ce qui ferait de la Chorma un sujet particulier du Hocher et qui expliquerait que la richesse de Hacher soit exprimée en huile et pas en or ou en argent. Donc on va. Je prends un petit papier. On va commencer à amorcer la. Notre conclusion qui va être, vous allez voir, un peu plus qu'une conclusion. On va essayer d'apporter même de nouvelles idées. Alors, on a vu que le hocher, le bonheur en construction, par étape, par palier, se démarquait d'un gad, qui était un bonheur inattendu. On a également vu l'importance des relations à l'autre dans l'expérience du hocher à tous les niveaux. Maintenant, qu'en est-il de Gad, pour Gad, de cet autre bonheur qui lui a l'air d'aller de pair avec la convoitise des autres sur ses richesses? La Gemara, dans Shabbat, au Daf 69, nous dit « Ein Gad ela lashon avodazara ». Il n'y a dans le sens du mot gad, il n'y a pas autre chose dans le sens du mot gad que de la avodazara. Sans sens difficile à comprendre quand on sait que c'est le nom d'un des fils de Yaakov. Donc comment comprendre cette Gemara? Alors, peut-être juste une. Voilà. Revenir sur le Rashi. Sur le rachi du pasouk sur l'enfantement de la servante de Léa. Donc, on dit le bonheur est venu. Vatomer Léa, Bagad. Vatikra et Shemo Gad. Un bonheur est venu et elle appelait son nom Gad. Alors, Rashi dit Bagad. Lui décompose en deux mots. Ba-gad. Il est venu un bonheur. Et ça fait référence, d'après Rashi, à un passage d'Isaïe, où le bonheur en question, Gad, c'est le nom d'une divinité, donc d'une idolâtrie. C'est-à-dire à l'époque d'Isaïe, on rendait un. Il était possible de rendre un culte à une divinité qui s'appelait Bonheur. Donc, ce qu'on va essayer de montrer dans notre conclusion, c'est que dans une manière de recevoir le bonheur, une manière qui serait impromptue, inopinée, il y a le risque se profile de pratiquer un mauvais culte, un avodazara envers Hachem. Donc je vous cite quand même le verset d'Isaïe, qui dit il dresse une table pour Gad, voilà, qui est la divinité du bonheur. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est que la question du bonheur doit se préserver de deux écueils. Premièrement, l'orgueil et la jalousie que Léa a su surmonter, et deuxièmement, la avodazara. Je vais vous détailler juste à l'instant. Donc ces deux écueils tiennent à notre attitude sur la cause du bonheur, à notre manière de recevoir ce bonheur. Donc ces deux écueils, on les a formulés de la manière suivante. Donc pour le premier, l'orgueil, la jalousie, le risque, c'est de dire que c'est grâce à moi seul que cette chose-là arrive. C'est moi qui ai rendu possible ce bonheur. Donc sentiment d'orgueil et de jalousie. C'est ce qu'on a qualifié de problème horizontal. Et le deuxième écueil, celui de la Vodazara, que je vais développer ici, c'est dans la manière de recevoir cette chose inopinée, l'invention d'une cause extérieure. C'est-à-dire, on reçoit un bonheur auquel on ne s'attend pas, et puis tout de suite, on impute cette chose-là au Mazal, à Hachem, à toute... voilà, donc il y aurait une manière de dire que tout ce qui nous arrive vient d'Hachem qui confinerait à l'idolâtrie. Ce qu'on essaie de dire avec prudence. Bon, en tout cas...
Il faudrait attendre de voir se développer Hachem, de voir retomber, et là on pourrait...
Exactement. Ouais, non mais...
Pardon.
Non mais c'est... Voilà.
Tant qu'on reste au niveau de gamme, même si on dit...
Voilà. Mais non seulement il y a cette idée de progression, mais cette idée de progression doit être sanctionnée par une reconnaissance tierce. Voilà, non mais le risque c'est de dire j'ai gagné au loto, c'est parce que voilà, et on s'invente plein de trucs pour justifier cette chose qui nous arrive, on ramène ça à un heureux sort qui nous tombe dessus. Donc ça c'est le danger. Et puis la Gemara semble dire cette chose-là dans Shabbat, elle dit Engan et la Lachon Avodazara, il n'y a dans le sens du Mogan pas autre chose que de la Avodazara. Donc ça semble radical et extrémiste comme position, mais en tout cas il y aurait une idée comme ça.
Comment ça rendrait compte du fait que dans la dimension Gad il y a la convoitise, alors que la chair est reconnue,
Voilà. Alors si on suit l'idée de Rav Hirsch qu'on a vu tout à l'heure, hein, que Gad c'est quelque chose qui n'est pas attendu, quelque chose qui est inopiné, l'écueil est quasi inévitable. C'est là Avodazara de chercher une cause mystérieuse au surgissement de cet événement. Ce serait, on formule autrement, rabattre ou réduire cet événement à quelque chose qu'on connaît déjà. C'est tellement ambigu cette idée-là que le Netziv, lui, dans son commentaire, n'a pas voulu laisser dans la Torah de place pour un vrai mazal. Et il a transformé ça en auto-surprise. C'est-à-dire, lui, il a plutôt dit que la réaction de Léa, c'était un étonnement sur le propre comportement qu'elle a adopté. Elle s'est surprise elle-même d'avoir pu... comme ça, donner sa servante en mariage à son mari. Alors, le Hocher, contrairement à Agathe, dans le sens de bonheur construit et en progrès, lui a sa cause apparemment, ce n'est pas une cause qui tombe comme ça sans raison, puisque on peut voir dans notre préparation la cause de ce bonheur. Donc il y a moins ce risque de Avodah Zara d'attribuer une cause mystérieuse à notre bonheur dans la version, dans le bonheur version Hacher. Ce qui ne veut pas dire que l'écueil est moins dangereux que celui d'Avodah Zara pour Gad. Mais où c'est pour Hacher le problème de la relation à l'autre qui serait mise à mal par l'orgueil et la jalousie, voilà. Pour Hacher, ce n'est pas le cas. C'est ce qui explique le redoublement des imbrications de la relation à l'autre dans l'accès au cher, comme pour s'assurer de ce qu'on reste bien ancré dans sa relation à l'autre sans prendre des distances. Alors, ceci nous amène à un nouvel éclairage sur le besoin de reconnaissance propre à Hacher. Ce qu'on veut dire, c'est que le besoin d'assentiment qui est celui d'Hacher ne vient pas de l'aspect bonheur du Hocher. Au contraire, ce qui est nécessaire pour sortir Hacher du spectre de la Avodah Zara, c'est la reconnaissance de ce que ce bonheur est bien la résultant d'une préparation. Aussi bien chez Léa, qui dit « Ki ishruni banot », que le Netziv explique comme la louange sur la grande abnégation dont elle a fait preuve en donnant Zilpa à Yaakov, que dans le Chacham de l'histoire de la Gemara sur l'huile, où le commercial reconnaît le travail besogneux pour lequel il a préparé sa richesse. Et lorsqu'il dit, le démarcheur, Yesh Mitroshesh Ve On Rav, c'est-à-dire il y en a qui semblent riches mais qui en fait n'ont rien, c'est en quelque sorte une reconnaissance. Il s'agit bien d'un Hocher et pas d'un Mazal Tov. Et ce que l'on a expliqué, c'est que cette reconnaissance qui le fait entrer dans le bonheur version Hocher doit nécessairement venir par l'autre, afin de pallier au danger qui guette le dépositaire du Hocher. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et pour conclure en quelques mots, le Hocher, c'est bien la résultant d'une préparation, et c'est comme si, dis-moi si je me trompe, hein, comme si seul, je n'étais pas capable de me situer par rapport au résultat, que j'ai besoin de l'assentiment des autres. Voilà. Et c'est ce bonheur-là, avant tout, qu'on a voulu définir au cours de cette présentation. Voilà. Donc c'est Moshe qui a fait une grande partie du travail. Donc si vous posez des questions, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Donc peut-être que Moshe Serra ou Rav Grandstein nous épaulera. Donc s'il y a des questions, je veux bien essayer de répondre.
Sur la deuxième occurrence, la différence entre Gad
et Hacher.
Le type de bonheur entre Gad et Hacher,
que oui, c'est la bracha de Yaakov. De Yaakov à ses enfants. C'est ça? Alors, le verset exact, c'est Gad Gedoud Yegoudenu, ce qui veut dire Gad sera assailli par des troupes ennemies, mais lui saura les faire fuir. Donc il y a bien cette notion de jalousie et de convoitise. Voilà, et il vit avec ça. Il est heureux, il a une espèce de bonheur, il est Gad. Et ce Gad se fait malgré les atteintes des autres. Alors que pour Hacher, juste après, on dit mais Hacher, Shemena Lachmo, grâce à Hacher, son pain sera huileux Et tout de suite, on traduit, pain huileux, ça veut dire qu'il pourra fournir des richesses aux autres tribus. Et c'est là où on a ramené le fait que les filles d'Asher seront destinées en mariage aux Kohanim. Donc ce qu'on disait, c'est que dans Asher, il y a une richesse qui est destinée à profiter à d'autres. Elle n'est pas convoitée. Non seulement elle n'est pas convoitée, mais en plus elle s'offre aux autres. Asher produit pour les autres.
Seulement qu'il peut lui donner ce qu'il demande, et qu'il en a bien plus. Donc il lui montre à la fois que cette sagesse qu'il recherche, il est à la bonne adresse, et il lui fait envie, il l'aide à rechercher cette sagesse. Parce que l'élève, de lui, il a même la richesse or. C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est que si le bonheur est tombé du ciel, vu comme un hasard, alors générer de la convoitise. Pourquoi lui et pas moi? Si on reconnaît que le bonheur est le produit d'un travail, ça ne va pas générer de la convoitise. On voit bien que c'est le fruit d'un travail.
Et on est même loué pour ça.
Oui, c'est ça. La louange, le fait que les gens reconnaissent que c'est vraiment un travail, et qu'ils vont voir la. Oui, on peut ajouter ce que tu dis, effectivement, c'est le contraire de la convoitise. On est loué pour avoir fait ce travail. Ça génère au contraire de l'admiration et. C'est une idole. C'est quoi? bonheur sous forme de bonheur qui tombe du ciel, il y a un risque que ce bonheur-là soit adulé, devienne lui-même une idole. C'est le bonheur qui est tombé du ciel, à la limite, c'est tous les mythes qui sont construits sur l'enfant qui est tombé du ciel et qu'on va diviniser. Devient lui-même l'idole. Quoi, parce que d'où il vient ? Il n'a pas été produit. Donc c'est une idole, c'est une divinité. Donc ce type de bonheur, effectivement, c'est un bonheur qui débouche. Bon, à la limite, on va attribuer ce bonheur à. Justement, à quoi ? On va dire que s'il n'a pas de cause, ce bonheur, s'il n'a pas de cause, alors il a sa propre cause. Donc il a une idole. Enfin, c'est une divinité. C'est comme s'il était capable de se faire tout seul. Il n'est pas la production de il n'est pas le produit d'un travail. C'est ça, cette idée que. Est-ce que vous voulez dire autre chose ?
Léa, elle attribue à Hachem, ça.
Pardon ?
Léa, elle attribue à Hachem, Léa.
Alors, non, mais on ne dit pas qu'on est piégé.
Alors,
c'est
prochain,
il y a un risque, c'est un risque.
Oui, c'est un risque, mais elle spontanément, elle attribue à Hachem quand on est. Alors que moi, j'ai l'impression un peu au contraire qu'avec Rochard, on dit les filles ont loué ma progression, comme si c'est moi qui fais une progression. Hachem est plus difficilement trouvable dans une démarche comme ça que quand je dis j'ai gagné au loto, bah, soit j'ai mis beaucoup de chance, ou alors c'est vraiment Hachem qui veut me dire. Alors que si je dis je m'enrichis un peu chaque année, je peux plus m'enorgueillir que dans le cas où j'ai gagné au loto. C'est l'idée de la progression qui est plus dangereuse à prendre en sens par rapport à un chêne que dans le cas où ça vient comme une éruption.
C'est pour ça. Non, mais donc c'est pour ça que le risque de l'orgueil.
Il n'a pas de raison. C'est-à-dire.
Oui, c'est
arrivé comme ça. Elle est étonnée. Elle s'étonne elle-même. On s'étonne de son étonnement, mais
elle s'étonne. Elle a attendu.
Non, elle
n'attend
pas. Léa.
Si, en même temps, elle a préparé, puisqu'elle a donné.
Oui, elle ne l'a pas donné pour ça.
C'est bien pour que.
Non, elle ne l'a pas donné pour ça. Elle l'a donné pour que. Pas un bonheur pour elle, le problème, c'est que tout à coup, il y a un bonheur qu'elle possède. Alors qu'en réalité, ce qu'elle a fait, c'est. Elle a vu souffrir. Zilpa, parce que sa co-servante, l'autre, Bilha, elle a eu des enfants, donc elle voit que Zilpa, elle n'en a pas. Donc elle la voit souffrir, elle prend sur elle, ça pourrait être encore plus difficile parce que Léa, elle a toujours ce sentiment qu'elle n'est pas vraiment aimée. Puisque Rachel est plus aimée qu'elle, donc elle a le sentiment qu'elle n'est pas aimée. Donc, arriver quand on n'est déjà pas sûr de sa position, en quelque sorte, à donner sa servante aussi, c'est un véritable exploit. Mais elle l'a donné pour ça, elle a vu l'autre souffrir, et ce qu'on dit après, c'est qu'elle s'étonne elle-même, tiens, j'ai été capable d'une telle grandeur. Et à ce moment-là, effectivement, cet étonnement-là, sans viser, elle n'a rien visé. Elle n'a pas visé un enfant, pour elle.
En même temps, elle était vraiment dans la compétition par rapport.
Mais elle avait déjà gagné par KO. Je veux dire, elle a 4 enfants et au moment où tout commence, elle a déjà 4 points d'avance. C'est 4-0 au départ.
Donc ça a fait elle extraordinaire.
Elle s'étonne d'avoir réussi à prendre sur elle ce défi gigantesque. Du coup, elle a ce bonheur de cet enfant qui la comble en fait, c'est étonnant. Elle se sent comblée elle aussi par cet enfant.
Pour faire suite à ta remarque hein, sur le fait que le fait de progresser, ça aurait tendance à nous rendre plus orgueilleux. Je pense que c'est pour ça aussi que pour que le Hochère soit véritable et qu'il ne comporte pas de tâches d'orgueil, il a besoin de la sanction des autres filles. C'est pas moi qui suis capable de dire ça. Mais les autres filles m'ont loué, et c'est ça qui me fait que mon Hochère est véritable.
Est-ce qu'il manque vraiment tant que les filles n'ont pas loué?
L'idée, ce serait que, comme tu disais, que je m'enorgueillis de ma propre progression. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça.
Quand les filles la louent de ça, c'est au contraire, ça va fortifier ce.
Non, mais avant qu'elle. Oui. Alors le fait qu'elle. Ouais. On peut dire ça aussi. Hein. En mesure de pouvoir répondre. Monsieur, non ? Mais alors, il y a deux traductions justement. Il y a plus que ses frères ou parmi ses frères.
Il y a un Rachid qui ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Il ne sait pas pourquoi. Il a cherché, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette édition. Enfin, cette.
Il a surtout posé la question quand Rachid ne sait pas.
Distance là où la main exceptionnelle pour aller à contre-pied. Ça ne le gêne pas, mais de là dire que c'est ça la cause du bonheur, c'est-à-dire de se sentir convoité, c'est peut-être inverser. Et juste vous répondre sur Gad. Alors le Netziv dit que Gad a élargi son terrain en englobant le terrain de Baal Péor que les autres tribus ont refusé. Et c'est pour signifier que Gad a développé une résistance à la Avodah Zara exceptionnelle. C'est là, ouais.
Comme il y avait ce grand risque, il a, pour ne pas tomber dans le piège, il a développé cette résistance particulière. C'est comme quelqu'un qui.
Il
a fait des anticorps, quoi, lui contre l'idolâtrie. Parce qu'il est très fortement confronté à ça.
C'est pas compliqué. En prenant un qui n'était pas à lui.
Oui, que les autres tribus ont refusé.
Non, mais il a pas pris n'importe quel terrain, il a pris le terrain de Baal-Péor. Baal-Péor, c'est la dernière idole à sortir de l'Égypte. C'est l'idole avec laquelle les Juifs ont fauté
en Eretz Israël
à
la frontière.
Sur le conseil de Bilam, etc. Donc c'est un terrain de. Les Juifs sont morts, les Israéliens sont morts, ils ont été punis, etc. Tout ça à cause de cette idole. Personne n'avait envie de. Par exemple, de prendre un terrain comme celui-là. Lui, il a. Parce que justement, probablement que lui, il avait des anticorps contre l'idolâtrie.
Il était prévenu.
Il n'avait pas peur. Oui, il n'avait pas. Il pouvait ne pas avoir peur de ça.
Les deux, puisque Gad, ça reste une des tribus. Et peut-être qu'il y a un aboutissement, une plus grande vérité dans le bonheur de Asher. Mais il n'en reste pas moins que Gad veut dire aussi bonheur. C'est-à-dire. Il y a deux types de bonheur, et ce qu'il faut c'est être conscient des dangers de chacun et puis être préparé puis agir de manière juste à chaque fois qu'on y est confronté. C'est un peu ton ultime conclusion. Ouais. Merci.